Alors comme d'habitude, nous allons ouvrir notre Bible en 1 Corinthiens, chapitre 9. Mais avant de commencer, je vais prier pour remettre ce message. Seigneur, nous voulons tout d'abord te remercier pour ce privilège que nous avons de t'appartenir. Un privilège, Seigneur, parce que nous étions des ennemis. Nous étions sans force, éloignés de toi. Nous ne te reconnaissions même pas tel que tu dois l'être, Dieu. Nous ne t'adorions pas. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu nous as aimés alors que nous ne t'aimions pas. Et Seigneur, nous voulons vraiment aujourd'hui que notre vie soit changée, différente. Pas une vie qui soit loin de toi, mais une vie avec toi. Une vie conforme à ta volonté. Une vie dans ton amour. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as donné ta parole pour que nous puissions avoir cette vie. Merci, mon Dieu, parce que cette vie nouvelle, elle était au prix de ton sacrifice. Nous l'avons encore vu ce matin. C'est toi qui as payé. C'est toi qui as versé ton sang. C'est toi qui as été brisé sur la croix. Alors que, Seigneur, c'est nous qui devions l'être. Et Seigneur, je veux te remercier pour cela. Et Seigneur, je te remets le message aujourd'hui, la prédication. Tu connais les faiblesses du prédicateur, mais ta parole est puissante. Et Seigneur, que ta parole puisse agir aujourd'hui, afin que des hommes, des femmes, Seigneur, puissent encore se rapprocher de toi, ou te connaître même, s'ils ne te connaissent pas. Que Seigneur, tu puisses être glorifié des bouches de chacun, de la vie de chacun encore en ce jour. C'est en Christ que je fais cette prière. Amen. Amen. Alors, on est toujours dans notre livre, 1 Corinthiens. Et depuis qu'on a lu 1 Corinthiens, depuis le début, on peut faire une petite conclusion. C'est une épître qui remet de l'ordre là où le désordre règne. C'est une épître qui redonne la bonne direction là où l'égarement a été semé. On l'a vu depuis le début, ils ont été enseignés, mais dans leur manière de se conduire, ils vont à l'opposé de ce qu'ils sont censés vivre. Dans cette épître, il nous a rappelé une chose simple. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de partager la vie du Père et du Fils. Mais les Corinthiens ont commencé à vouloir vivre à la corinthienne, comme ils vivaient avant, une vie où Dieu n'est pas partagé, une vie qui n'est pas avec Dieu. Nous avons vu la vie avec Dieu, la vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, c'est une vocation d'abord, la sainteté, et non pas la débauche ou les excès de plaisir. La vie de chaque jour, c'est la grâce et la paix, et non pas la rivalité et le désordre. Notre richesse, c'est la parole et la connaissance, et non pas la philosophie humaine. Notre appel, c'est à vivre ensemble, en communion avec le Fils, et non la division. Notre sagesse, notre manière de vivre, c'est Jésus-Christ crucifié, et non pas une sagesse humaine. Notre puissance pour en témoigner, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et non pas nos capacités. Notre rôle, c'est d'être un temple dédié à Dieu et non pas un temple dédié aux idoles. Voilà, on pourrait dire un résumé de ce qu'on a vu depuis et ce qu'est la vie éternelle. Vivre avec Dieu, vivre selon Dieu. Souvent, on se dit, ou on vit un peu comme ça, la vie éternelle, c'est de vivre éternellement. Donc, je ne veux pas mourir, je veux vivre éternellement. Mais la vie éternelle, c'est vivre éternellement avec Dieu et selon Dieu, et pas juste comme je veux. Mais parfois on l'oublie. Et souvent on se dit « Ah, mais je ne veux pas mourir, je veux juste vivre. » Mais c'est quoi vivre? La vie, le chemin, la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc vous ne vivrez pas la vie que Dieu vous a promis hors de Jésus-Christ. Et c'est l'enseignement que Paul veut amener aux Corinthiens. Jésus-Christ nous donne sa vie, sa sainteté, sa grâce, sa paix, sa connaissance, sa communion avec le Père, son pardon. Il l'a payé pour cela. Une vie nouvelle, son esprit, sa présence dans votre vie. C'est l'amour de Dieu. Quand quelqu'un vous aime, il ne se tient pas à l'écart de votre vie. Et quand il vous aime, il vous donne ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il y a de meilleur qu'il possède. Et Dieu vous a aimé, le meilleur qu'il avait, c'était quoi? son fils. Le fils vous a aimé, le meilleur qu'il avait, c'est sa vie. Et aujourd'hui encore, la vie qu'il vous demande de vivre, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est sa vie. C'est l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons été sauvés, que nous sommes édifiés pour devenir ce temple, un temple qui ne va pas devenir une grotte, mais le temple de Dieu, un lieu saint. Un lieu où l'amour règne, où la joie règne, où la paix règne. Et c'est ça, la volonté de Dieu pour nous. Qui dirait non à l'amour de Dieu? Quand nous l'avons connu, nous ne pouvons plus dire non. Mais ceux qui ne le connaissent pas voient ce temple comme une prison. Mais pour nous, elle est quoi? Un abri. Alors voilà pourquoi les Corinthiens avaient commencé à se détourner de la vie éternelle et essayer de ramener leur vie à la corinthienne, à l'intérieur de l'Église. Le résultat, on l'a vu, dispute, querelle, un manque d'amour certain. Bref, ils ne vivaient plus la vie éternelle telle que Dieu l'avait demandé. Si nous avons été édifiés, si nous avons reçu cet amour qui vient de Dieu, Jésus-Christ, notre vie, armons-nous de la même pensée que Jésus-Christ, de la même pensée que Paul, c'est-à-dire de vivre et d'annoncer cet évangile, de prêcher et de vivre Christ crucifié, aimer les autres, aimer comme nous avons été aimés. Il est difficile d'aimer sans avoir été aimé. Vous savez, parfois on se dit, mais pourquoi ces personnes-là dans le monde, ils font ces choses? Peut-être parce qu'ils n'ont pas été aimés. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Et nous, on ne savait pas vraiment ce que c'était l'amour. Moi, je pensais aimer parfois des personnes et je leur ai fait beaucoup de mal. Mais l'amour, c'est l'amour tel que Dieu le donne, un amour qui édifie. Nous, notre amour, c'est un amour qui consomme. On parle du mariage, c'est tant que ça nous arrange, tant que la personne nous plaît, on reste avec. Mais quand elle ne nous plaît plus, on s'en va. Je donne l'exemple, c'est la différence entre aimer un lapin et aimer un lapin. Vous avez deux manières d'aimer un lapin. Soit vous le mangez, soit vous en prenez soin. Et quand vous le mangez, ça fait du bien à qui? À vous. Mais quand vous devez en prendre soin, ça fait du bien à qui? À votre avis, quel est l'amour de Dieu? Prendre soin? Ou parce qu'il a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Certainement pas. Alors Dieu nous aime, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et ceux qui veulent le suivre font pareil, c'est ce que fait Paul. Paul aime les Corinthiens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin d'eux. Et il va leur annoncer cet évangile qu'ils ont oublié. Il va les amener à se dépouiller de leurs péchés, à changer de vie, à aimer Dieu. Il va les amener à se dépouiller de leur vie pour sauver les autres, pour changer des vies, pour aimer les autres. Aimer Dieu, aimer les autres. C'est ainsi que Paul menait sa vie, la vie d'un homme sage, un homme qui aime Dieu, un homme qui aime ses frères et sœurs. Et on l'a vu la dernière fois, il a accepté de quoi? De se dépouiller de ses droits pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile. 1 Corinthiens 9, 12, il avait des droits, mais il s'en est dépouillé. Acceptant de se dépouiller des privilèges d'un prédicateur de l'évangile. Un prédicateur de l'évangile doit vivre de quoi? De l'évangile. Moi, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ça. Acceptant de perdre sa liberté. Vous l'avez vu la dernière fois, pour gagner les juifs, pour gagner ceux qui sont sans la loi, les païens. Il se fait tout à tous. Il n'a pas besoin de proclamer ses droits. Un homme dont la seule récompense souhaitée est de pouvoir offrir gratuitement l'évangile. Un homme qui a compris une parole du Seigneur et qui l'a répétée à ceux qu'il a enseigné à devenir des anciens, des prédicateurs, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On peut reprendre ce passage, hein. Actes chapitre 20, verset 33 au verset 35. Qu'est-ce qu'il leur a enseigné ? Actes chapitre 20, verset 33 à 35. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment on va travailler? En cherchant à obtenir quelque chose? Non, en donnant. Dieu, il a fait quoi? Il a donné. Jésus-Christ a fait quoi? Il a donné. Et nous, comment est-ce qu'on fait? Donne-moi. Donnons. C'est ça l'amour, un amour qui édifie. Paul, on l'a vu dans ce passage, parle en homme sage. Un homme fort dans sa connaissance de Dieu, mais qui va devenir un homme faible avec les faibles. Il accepte de se faire tout à tous, comme il le dit en 1 Corinthiens 9, 22, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Il est à l'image de son Seigneur, de Jésus-Christ, qui avait tous les droits. On l'a vu tout à l'heure, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant. Mais que dit Philippiens 2, 7 ? Mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. On chante te ressembler Jésus. Paul vit te ressembler Jésus. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Ressembler à notre Seigneur. Que faire ? Se dépouiller, donner sa vie afin d'en sauver le plus grand nombre. Et c'est pour ça que si on devrait prendre un titre pour ce passage, le titre serait « Se dépouiller pour gagner ». Totalement illogique. Pour gagner, il faut s'armer. Mais là, il dit « Se dépouiller ». Perdre pour gagner. Et on va prendre le passage dans lequel nous allons enseigner 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Donc c'est la fin du chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 24, du chapitre 9, pardon, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Pour nous expliquer qu'il faut se dépouiller pour gagner, Paul va utiliser deux images du sport. La course et la lutte. Sport de combat. Et il va parler d'abord de la course, verset 24, et il va dire une phrase simple, mais qui est très importante. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? C'est un peu bizarre le début quand même. Si on retire derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait dans un stade? On court. Pourquoi il précise que ceux qui sont dans un stade, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Courir. Tous. Comme si ce n'était pas une évidence. Lorsque vous allez au stade et que vous regardez les personnes derrière la ligne de départ, quand il y a un top départ, vous n'attendez pas qu'il y en a un qui reste comme ça. Vous attendez qu'ils fassent quoi tous? Qu'ils courent. Et là, il le précise. Mais vous ne savez pas que normalement, dans un stade, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui courent dans le stade courent tous. C'est la norme. Mais parfois, au top départ, de ce qu'il remarque à Corinthe, c'est qu'il y a eu un top départ et puis il y en a, ils sont toujours au même endroit. Et d'autres courent. Sachez que ceux qui courent dans le stade courent tous. Et ma première question ici, c'est où êtes-vous? Est-ce que vous courez dans le stade ou est-ce que vous êtes dans les gradins? C'est deux places différentes. Vous pouvez être dans le stade, mais pas sur la piste. Vous pouvez être dans le gradin. Et dans les gradins, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on commente, et on est bien assis. Et la vie se passe où? Juste devant nous. Et vous savez, il donne cet exemple, Paul, parce que Corinthe, c'est, et le sport, c'est deux villes, c'est une ville, pardon, qui est assez connu pour ça. Si vous connaissez les Jeux Olympiques, À l'époque, il y avait un autre jeu qui était aussi célèbre, ce sont les jeux ismiques, et qui se déroulaient où ? À Corinthe. Et il y avait plusieurs villes comme ça, où les jeux se passaient, et les villes s'affrontaient les unes contre les autres. La seule qui a été gardée aujourd'hui, ce sont les Jeux Olympiques. Mais c'était très grec, ça se passait un peu partout, et Corinthe avait son stade, Corinthe avait ses jeux. Et donc quand il leur parle de la course et de la lutte, ce n'est pas anodin, ça devait être des bons spectateurs. Ils devaient savoir qu'est-ce qui se passe dans le stade, comment est-ce que la course se passait. Alors il va les prendre à ce qu'ils connaissent. Comment ça se passe dans un stade? Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont dans le stade, ils courent. Sinon, vous êtes dans les gradins. Dans les jeux de cette époque, il y avait la lutte, la course, le saut, lancer de disques, javelot. Et tout le monde pouvait venir observer, mais tout le monde ne pouvait pas participer. Vous vous doutez bien qu'il y a des règles pour participer à de tels jeux. Déjà, il faut être apte. Apte. Donc, il y avait une sélection. Mais il y avait une autre règle. Il fallait être un homme grec et un homme grec libre. Si vous étiez esclave, vous ne pouvez pas participer. Si vous n'étiez pas grec, vous ne pouvez pas participer. Si vous n'étiez pas un homme, vous ne pouvez pas participer. Et avec le Seigneur, dans la course chrétienne, tout le monde ne participe pas non plus. Il y en a qui sont sur la piste et il y en a qui sont dans le gradin. Il faut d'abord que vous soyez non pas grec, mais que vous soyez chrétien. C'est-à-dire que vous apparteniez à Christ. Sinon, vous ne pouvez pas courir pour Christ. Il faut d'abord que vous ayez été libéré de vos péchés. Sinon, vous ne pourrez pas marcher, courir. Et si vous êtes dans vos péchés, vous ne pouvez pas courir pour le Seigneur. Si vous êtes encore prisonnier, attaché à votre siège sur le gradin, vous ne pourrez pas sortir de là. Et ce que le Seigneur a donné d'abord, c'est la capacité de courir sur la piste. Il nous a rendus aptes alors que nous étions inaptes. Il a dit, hein, il nous a aimés alors que nous étions sans force. Nous étions morts dans nos péchés. Essayez de faire courir un mort. Essayez de faire courir quelqu'un qui est sans force. Il va arriver où ? Il ne passera pas sa chaise, il ne passera pas la ligne. C'est normal. Voilà pourquoi on a besoin d'abord de connaître le Seigneur, d'avoir la vie du Seigneur et de dire « Seigneur, je veux que tu me sauves, délivre-moi de mes péchés, que je puisse être libéré et agir selon toi, avec toi. » Si vous ne l'avez pas fait encore, vous êtes dans les gradins et vous allez passer juste votre temps à commenter la vie des chrétiens. Ah, ces chrétiens, ils font ceci, ils ne font pas cela. Ah, ces chrétiens, ils disent « Ah, ces chrétiens. » Mais vous resterez toujours loin de la vie des chrétiens. De la vie de Christ telle que nous l'avons cité, de la vie éternelle. Courez pour Christ. Venez d'abord à Christ. Et ma question, c'est où en êtes-vous ? Êtes-vous dans le stade ou dans les gradins ? Christ vous donne la possibilité de sortir de vos chaises, de libérer, d'être libéré de vos péchés, d'être à lui, de courir pour lui et d'arriver au bout d'une course qui s'appelle le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas sur la piste, vous n'avez pas accès au royaume, vous n'avez pas accès à l'arrivée. Vous êtes juste sur vos chaises. Dans la vie chrétienne, ceux qui sont chrétiens doivent vivre comme des chrétiens. Si dans la course, ceux qui courent dans le stade courent tous, dans la vie chrétienne, ceux qui sont chrétiens doivent tous vivre comme des chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est une évidence aussi. Mais quand on regarde l'église des Corinthiens, ils sont chrétiens, mais ils vivent comment ? Comme des païens. Comme des Corinthiens, une vie à la Corinthienne, comme s'ils étaient dans les gradins. Restant sur place, n'avançant pas malgré le top départ du Seigneur qui leur dit tout simplement « Repentez-vous ! » Et ils préfèrent plutôt quoi ? Vivre dans la débauche. Participez à la course chrétienne. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la grâce. Vivez dans la paix. Vivez dans la parole et la connaissance. Vivez dans la communion avec son Fils. Vivez le pardon des péchés. Vivez une vie nouvelle. C'est ça la course. c'est la vie éternelle. Combien de chrétiens restent derrière la ligne de départ, n'avançant pas au top départ, restant assis comme s'ils étaient encore dans les gradins, comme s'il n'y avait rien au bout de la piste. Si vous rentrez dans la course, que ce ne soit pas pour faire figuration, pour être vu du grand public qui remplit les gradins du stade, mais pour remporter la récompense promise. Ce que l'on appelle le royaume de Dieu, le prix de l'arrivée. Où en est notre course chrétienne? Est-ce que l'on court lorsque la parole de Dieu nous donne un ordre? Quand il nous dit, repentez-vous, est-ce qu'on est là? On ne va pas bouger, on dit, ok. Quand le Seigneur nous dit, allez top, suis-moi, est-ce qu'on dit, non, moi je reste là. Dieu nous donne des top départs. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, il ne vous dit pas, on fera ça plus tard. C'est aujourd'hui, le jour du salut, si vous n'êtes pas sauvés. Et quand il donne un ordre, lève-toi et marche, il ne dit pas, lève-toi et marche, et on fera ça dans 2 ans, 3 ans, quand tu y arriveras, quand tu... Non, il dit quoi, lève-toi et marche quand? Tout de suite. Et c'est pour ça que quand il y a un top départ, comment font les coureurs? Parfois, ils font des faux départs, tellement ils sont au taquet pour partir. Et parfois, nous, on est là. Ouais, c'est bon. Je laisse un peu partir, et puis on verra. Comme s'il n'y avait rien au bout à atteindre. Courez vers le but. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. La question, ça veut dire quoi un seul remporte le prix? Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui ira dans le royaume de Dieu? On va dire plutôt qu'il y a un prix unique. Il y a un prix unique. Et quand vous courez dans un stade, vous courez quoi? Pour obtenir ce prix qui est unique, un prix que tout le monde n'aura pas. Mais quand vous courez pour vous dire quand même, il faut que je l'atteigne, il faut que j'y aille comme si j'étais le seul qui devait l'avoir. Ce n'est pas de l'égoïsme en me disant, tiens, je laisse les autres de côté. C'est plutôt considérer cette arrivée comme quelque chose de précieux. Si vous la considérez comme précieuse, vous la voudrez à tout prix, un prix unique que vous voulez remporter. Mais parfois, dans la course, certains ne considèrent pas comme intéressant ce qu'il y a au bout de la course. Ils disent, je veux la vie éternelle, mais au bout de la course, ok, c'est bon, j'ai déjà mon salut, je suis sauvé, mais c'est quoi au bout de la course? Je suis bien quand même sur cette terre là, je suis bien de ce côté de la ligne. Pourquoi est-ce que j'irai courir jusque là-bas? Si vous ne prenez pas le départ, vous vivrez comme vous avez toujours vécu, derrière la ligne. Peut-être que vous n'êtes plus dans les gradins, mais au final, vous aurez pris votre chaise et vous l'aurez installée derrière la ligne et vous serez assis à vivre exactement la même chose que ce qui se passait dans les gradins. Et imaginez-vous un coureur qui ramène sa chaise, qui est sur sa piste, piste numéro 8, il pose sa chaise et il est assis là, pendant que les autres sont prêts à démarrer. Boum, il démarre et ils partent tous. Qu'est-ce qu'il va faire celui qui est assis? Beaucoup bizarrement lui. Moi à sa place, j'aurais fait comme ça. Ah, ta, etc. Il va passer son temps à faire quoi? À commenter quoi? La course au lieu de courir. Est-ce que vous voyez les coureurs? Oh tiens, toi tu cours bizarrement. Est-ce que vous les voyez faire ça? Mais où est-ce qu'on fait ça? C'est dans les gradins. C'est quand on est en observateur. Mais dans la course, chaque coureur court pour quoi? Pour remporter le prix. Sans regarder à gauche, à droite, mais regardant quoi? L'arrivée. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Courez de manière à le remporter. Courez pas comme des personnes qui n'ont rien à voir derrière. Et qu'est-ce que l'on va remporter? On a dit le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle avec Dieu. Si c'est le royaume de Dieu, qui est-ce qui règne là-bas? C'est Dieu. Et c'est sûr que si on ne s'intéresse pas à ce que Dieu règne dans notre vie, ce n'est pas le bout de la course qui va nous intéresser. C'est derrière la ligne. Au moins derrière la ligne, je fais ce que je veux. Et je suis dans mon confort. Si vous ne prenez pas le départ, c'est ce qu'on dit, vous vivrez toujours comme vous avez vécu, comme si vous étiez assis dans les gradins. Et vous ne ferez que ramener votre manière de vivre des gradins sur la piste. Voilà pourquoi les Corinthiens ramenaient leur manière de vivre dehors, à l'intérieur de l'Église. Commentant l'activité des autres. En chacun disant, non, le plus fort, c'est moi. Non, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. Mais personne n'est en train de courir sur la piste. C'est sans comme les enfants qui sont en train de se disputer. C'est moi le plus fort et mon papa aussi, c'est le plus fort. On l'avait déjà dit. Et ils sont où? Derrière la ligne. Mais personne ne court. Voilà l'église de Corinthe. Personne ne court. Et c'est pour ça qu'il le dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais vous, vous faites quoi? Vous discutez entre vous. Vous vous disputez entre vous. Vous n'êtes même pas capable de faire ce que Dieu vous demande, d'aimer Dieu et aimer vos frères et sœurs. Vous vivez ce que vous viviez dehors et vous le ramenez dans l'église. Qu'est-ce que le bout de la course? Qu'est-ce que nous devrions souhaiter? La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? On l'a dit, on le redira toujours. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est connaître le seul vrai Dieu et son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Si ça ne vous intéresse pas, vous resterez où? Derrière la ligne. Si vous ne comprenez pas ce que ça peut changer dans votre vie, vous resterez où? Derrière la ligne. Mais si vous savez tout ce que c'est que de vivre dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de Dieu, vous courrez encore plus vite que votre manière de courir du début. Vous savez, parfois dans les longues courses, ils courent un peu en trottinant, mais plus ils sont proches de l'arrivée, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ça sprint. Ça sprint, je vois l'arrivée. Et on comprend que quelqu'un qui soit nouveau dans le Seigneur, bon, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il avance en tâtonnant, et puis il apprend à courir. Mais si ça fait des années que vous connaissez le Seigneur, vous devrez courir plus vite que ceux qui sont au début. Parce que vous voyez la ligne, vous savez ce qui s'est passé depuis sur le terrain, et vous pouvez montrer, la ligne, elle est proche, j'y vais encore plus rapidement. Elle est proche. Et c'est ce que fait Paul. Et il est là, et il voit ses Corinthiens qui ne courent pas, mais lui, il court. Et il veut les amener faire quoi? Courir avec lui. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de vivre sa vie, telle qu'on l'a dit, la sainteté, la grâce, la paix, sa parole, que nous obéirons, à laquelle nous obéirons chaque jour, la communion avec lui, son Fils, et une vie sans péché. La sainteté, une vie sans péché. Si une vie sans péché ne nous intéresse pas, vous savez où est-ce qu'il y a une vie où c'est juste le péché qui va régner? C'est pas auprès du Père, hein. C'est là où le Père ne sera pas. C'est là où le Fils ne sera pas. Vous connaissez ce lieu? Vous connaissez ce lieu? Vous savez quel endroit est-ce que le Père a dit, là, dans cet endroit-là, il n'y aura plus ma présence. Ça s'appelle l'enfer. Là où beaucoup de gens veulent aller en disant, là-bas, c'est sympa. Oui, là-bas, chacun pourra vivre comme il veut. Mais quand on dit vivre comme il veut, regardez juste dans une église comme la Corinthienne, quand ils veulent vivre comme ils veulent, ils font souffrir tout le monde à l'intérieur. Et on est dans une église. Imaginez-vous un endroit où il n'y a même plus la parole de Dieu pour ramener. Ils avanceront de plus en plus vers, comme dit, vers l'impiété, la haine les uns envers les autres. Est-ce que c'est l'éternité que l'on souhaite vivre? Si vous n'êtes pas à Dieu, c'est le moment de prendre la course. Nous ne nous laissons pas, nous qui sommes au Seigneur, nous distraire aussi sur ce qui se passe dans le gradin, dans les gradins. Courons les yeux fixés sur l'arrivée pour remporter le prix, pour courir de manière à le remporter sans regarder ce qui se passe autour. Vous le savez, dans les stades, est-ce qu'il n'y a que des supporters? Il y a quoi dans les stades aussi? Il y a ceux qui vont toujours décrier. Oh, il est nul! Parfois, dans les stades, dans les gradins, on veut voir perdre l'un pour voir gagner l'autre. C'est comme ça qu'on vit dans le gradin, mais nous, on n'est pas dans cette manière de faire. On court de manière à remporter. Est-ce que notre vie est égal à cela? Est-ce que lorsque nous vivons notre vie chrétienne, nous marchons, ou nous courons plutôt dans ce cas-ci, pour aller vers le but, en ne le regardant ni à gauche ni à droite, mais en disant, moi mon but, ce que je cherche d'abord, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on se dit? Ou on regarde à gauche et à droite, on se dit, non mais ça aussi j'aimerais, ça aussi j'aimerais. Mais chercher d'abord quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et un coureur, il va chercher quoi d'abord ? Le royaume et la justice de Dieu. De quelle manière courez-vous ? Est-ce que vous courez dans le doute, peut-être ? Et si je n'y arrivais pas au bout ? Vous savez, quand le Seigneur nous fait rentrer sur la course, il dit une chose, que nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais il y a une phrase qu'il dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous connaissez cette phrase dans Romains ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, votre vie, vous avez une vie avec zéro péché ? Qui a une vie avec zéro péché ? Est-ce que vous êtes vraiment sauvés totalement ? Ça veut dire, si vous êtes encore dans le péché, c'est qu'il y a des choses qui nous empêchent de vivre selon Dieu. Et Dieu nous a donné par son esprit la possibilité de le vivre. Mais le lieu où il y aura le salut plein, c'est où ? C'est au ciel. C'est quand on sera dans un corps glorieux. Aujourd'hui, on est dans un corps de mort. Il faut quand même le dire. Notre corps, il nous pousse à quoi toujours ? À pécher. Mais celui qui nous garde, c'est Jésus-Christ. Si on devait compter sur notre force, on serait disqualifié. Parce qu'on sortirait toujours de la route, de la piste. Mais celui qui nous garde sur la piste, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous avançons, on avance parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes de l'équipe de Jésus-Christ. C'est lui qui fera pour nous. Mais il dit juste, cours. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Cours juste. Et si vous êtes à Christ, vous pouvez courir. Le reste, c'est lui qui va nous traiter. Et l'arrivée, elle est promise, elle est garantie parce que c'est lui qui nous l'a garantie. Courez avec l'assurance de manière à le remporter. Vous êtes sûr de le remporter. Il suffit juste de courir. Et la course, c'est la première chose que Dieu nous donne comme exemple ici dans ce texte. Dans la course, il faut se dépouiller du péché. Se dépouiller de son ancienne vie pour vivre une nouvelle vie. La vie d'un coureur et non plus la vie d'un spectateur. Et la deuxième image qu'il nous donne, eh bien, c'est la lutte. Si la course réclame d'être réactif, persévérant, d'obéir au top départ sans perdre de vue le but promis, l'autre sport qui est la référence ici, c'est la lutte, le combat. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Dans le combat, ce n'est pas un prix, mais une couronne qui est promise. Ce n'est pas d'atteindre la ligne d'arrivée, mais de recevoir une distinction pour avoir été victorieux d'un adversaire. Une couronne, en tout cas pour la lutte, de feuillage, du pain. Une couronne corruptible. Parce que je ne sais pas combien de temps vous gardez ce genre de couronne, mais je crois qu'à un moment donné, ça doit sécher et bien disparaître. Mais c'est la fierté pour ces coureurs de porter cette couronne à la fin de leur combat et de se dire quoi ? J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai remporté ce combat. J'ai lutté. Ce n'est pas ma course seule maintenant, c'est que parfois, il y a de l'adversité. Parfois, il y a des choses qui vont être contre nous et il va falloir lutter. Il va falloir avoir des souffrances, des choses qui vont être difficiles à vivre. Mais quand c'est fini, c'est la fin du combat. Et on est heureux. Et nous aussi, nous avons un combat et une couronne à recevoir, comme ces lutteurs, comme ces combattants. Mais notre couronne, elle est incorruptible. Ça veut dire qu'elle disparaîtra quand ? Jamais. C'est une fierté qui est une fierté éternelle, que nous vivrons dans l'éternité. Une victoire qui, en réalité, nous aura été donnée. Et c'est ce qui nous différencie de ces combattants. Eux, ils combattent, mais toute cette victoire, elle n'est que temporaire. Nous, quand nous avons une victoire, c'est une fois pour toutes. Vous avez été sauvés de la mort pour être amenés à la vie éternelle. Combien de combats est-ce que le Seigneur a mené pour que vous soyez de la mort à la vie éternelle ? Une fois, et c'est fini. Il est mort une fois pour toutes. Et vous, vous êtes passés de la mort à la vie une fois pour toutes. C'est une couronne. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier en disant « Maintenant, je sais que c'est fini et que maintenant, je ne suis plus prisonnier du péché, je suis juste libéré. » J'ai cette couronne qui n'est pas corruptible. Je ne la perdrai pas. Il y a des combats dans notre vie. Des combats pour des victoires éternelles. Nos combats vis-à-vis de notre chair. Quand vous avez un péché qui est derrière vous, et vous dites c'est fini. Et quand vous étiez dedans, vous vous dites mais je m'en sortirai jamais. Mais quand c'est fini, vous vous dites mais merci Seigneur, on l'a vu, hein, les Corinthiens, si on peut revenir à 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, il va leur dire hein, il y a un autre fois, quelque chose qui est fini mais qui existait avant. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ils n'auront pas la course. Les injustes, c'est quoi ? Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas participer à la course. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais ça, c'était quand ? Et c'est là que vous étiez. C'est du présent ou du passé ? Et c'est la fierté de dire, c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Il y a un passé. Ce sont des victoires. Quand vous regardez, c'est là où on était. Merci Seigneur, ce n'est plus là où nous en sommes. Des combats. Tout ça, ce sont des combats. Des souffrances. Tout ça, ce sont des souffrances. Et nos combats, nos luttes, nos souffrances nous amènent toujours avec le Seigneur à des victoires. Parce que celui qui va mener le combat, celui qui nous rend victorieux, hein, vous connaissez ce chant, victorieux en Jésus, mon sauveur à jamais. Ce n'est pas mon sauveur au début et puis après, hop, je me sauve moi-même. Si vous avez des difficultés, si vous avez du péché, si vous avez besoin de délivrance, où est-ce que vous allez vous tourner ? Qui est-ce que vous allez invoquer ? Votre force, votre capacité à sortir de là ? Toujours invoquer le Seigneur. Et ce combattant, ce n'est pas un combattant qui va utiliser sa force, c'est un combattant qui va combattre par le Seigneur. Il va utiliser ce que la parole de Dieu va lui demander. Et ce que la parole de Dieu lui demande, c'est certaines abstinences, certaines restrictions pour gagner le combat. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour être un bon combattant, il faut s'imposer soi-même. Et ce ne sont pas les autres qui vont vous l'imposer. Tous ceux qui combattent s'imposent. Donc c'est eux qui vont s'imposer quoi ? Toute espèce d'abstinence. Ce n'est pas une règle hein, où on dit, bon ben écoutez, à l'église baptiste, voilà, on va être abstinent sur ceci, on va être abstinent sur cela, ça, ça. Non ! C'est vous qui devrez faire quoi ? Vous imposer toute espèce d'abstinence. Vous devez quoi ? Savoir avoir une maîtrise de soi. Savoir se contenir. Pourquoi ? Pour avoir une nourriture, une boisson ou toute hygiène de vie qui ne va pas nuire au combat. Vous vous rappelez, hein, Paul il a dit quoi ? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? C'est logique, tu as le droit de manger et de boire. Pourquoi tu dis que tu n'avons pas le droit ? Eh bien parce que peut-être qu'il s'est privé de manger et de boire, parce que peut-être que les Corinthiens n'ont pas donné, mais ils ne leur ont pas dit, mais donnez-moi. Ok, je ne vais pas manger et boire. Mais je vous amènerai toujours quoi ? Gratuitement l'évangile. C'est ça l'amour ! C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est imposée quoi ? Une abstinence. Qui s'est imposée de ne pas avoir des choses qu'il devait avoir, qu'il pouvait avoir. Il s'est dépouillé de tout cela. Et si je peux gagner en m'abstenant de cela, si je peux sortir des souffrances en m'abstenant de choses qui sont temporaires, ben je m'en passerai volontiers. Car tous ceux qui combattent n'ont pas la même vie que ceux qui ne combattent pas. Si vous voulez combattre, vous ne pouvez pas avoir la même vie que quelqu'un qui ne combat pas. Vous devez quoi ? Vivre comme un sportif. Il va falloir ne pas parfois manger des choses que tout le monde mange. Il va falloir ne pas boire des choses que tout le monde peut boire. Ce n'est pas que c'est interdit, ce n'est pas que c'est un péché. C'est juste que si je veux combattre, il va falloir que je me passe de ça. Et quand il parlait de la viande sacrifiée aux idoles, il a dit, mais on sait qu'il n'y a pas de problème avec cette viande, mais si ça peut perdre mon frère, je ne mangerai jamais de cette viande. Ce n'est pas que c'est interdit, c'est que le combat, c'est quoi? C'est d'amener l'évangile. Et si ça peut perdre quelqu'un, alors que Christ est mort pour lui, Christ s'est dépouillé pour lui, alors je pêche. C'est là mon péché. Si l'on ne veut pas combattre, on ne va pas chercher à se dépouiller. On ne va rien vouloir perdre notre vie et on ne gagnera rien non plus. Ici, les Corinthiens organisaient ces jeux ismiques qui étaient sur le modèle, on l'a dit, des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont encore aujourd'hui un événement majeur qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous regardez les athlètes aujourd'hui, vous dites, ah, ils sont forts quand même. Hein. Ah, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils arrivent à courir à une telle vitesse? Comment ils arrivent à projeter là ce disque à une telle vitesse, à une telle distance? Comment ils arrivent à faire un triple saut? Ils font je ne sais combien de mètres alors que moi je fais un mètre. Comment ils arrivent à faire ça? Comme ça, ils sont nés, ils ont couru et ça a marché comme ça. C'est comme ça. Hein, vous connaissez la vie des sportifs. Si vous connaissez des sportifs, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils doivent remporter un combat. Ils doivent gagner. Et pour gagner, il faut être au meilleur de sa forme. Et au meilleur de sa forme, c'est faire attention à tout ce que l'on fait. Et c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le combat et annoncer l'évangile, il doit faire attention à tout ce qu'il fait. Pour ne pas quoi ? Perdre le combat, pour ne pas amener les autres à s'éloigner de ce salut. Mais au contraire, à les amener à se rapprocher du salut. Combien d'enfants, quand vous leur demandez « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?»« Je veux être footballeur. » Ouais, ouais, tout le monde veut être footballeur. Il y a beaucoup de place, hein, il y a beaucoup d'équipes. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on demande à ceux qui veulent être footballeurs au top niveau? Depuis petit, ils font quoi? Ils font quoi? Ils se baladent dehors, ils jouent. Non, ils doivent faire quoi? Ils jouent au foot. Et parfois, c'est « Ah, je ne peux pas venir jouer aujourd'hui, il faut que j'aille m'entraîner. Ah, je ne peux pas faire ceci, il faut que j'aille m'entraîner. Ah non, ça, je ne peux pas manger, j'ai match demain. Ah ça, ça. » C'est une vie, quand je dis « Ah, je dis, ouais, quand même, le pauvre petit. » Mais ils veulent quoi? Ils veulent devenir être pauvres, ils sont obligés de le faire. Et même moi, je dis pauvre petit, lui, dans sa tête, il dit « Non, moi, je ne suis pas un pauvre petit, moi, je sais ce que je veux faire. » Par contre, quand on te dit « Je veux ceci, si, si, moi, je veux vivre avec le Seigneur toute ma vie. » Mais dès qu'il y a un petit combat, « Oh non, non, non. Non, c'est ça, non, ça laisse tomber le Seigneur, là, je vais faire autre chose. » On refuse l'adversité, on refuse les combats. Pourquoi? Parce qu'on se dit « Oh non, 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 j'ai pas envie de perdre quelque chose. J'ai pas envie de perdre ma vie. J'ai pas envie, j'ai envie de vivre mes plaisirs encore. J'ai envie d'avoir mes petites passions. » Mais les Jeux Olympiques, tous ceux qui courent dans le stade, ils doivent ménager leur vie. Comment? En le saut, parfois s'abstenant de choses que tout le monde peut prendre. Mais si on veut combattre, on doit s'en passer. Gagner, oui, mais se dépouiller, non. Voilà la logique du monde. Mais Dieu nous dit quoi? Dépouillez-vous pour gagner. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Courir à l'aventure, c'est qu'on ne sait pas où on va. Quelqu'un qui court à l'aventure, imaginez-vous quelqu'un qui court dans le stade, il va dans le mauvais sens, il va sur l'herbe, il court dans les gradins, il revient, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? L'arrivée, elle est juste là. Mais il dit, mais moi j'ai vu l'arrivée, elle est où? Je sais ce qu'il y a de plus important, c'est là, et j'ai juste qu'à faire une chose. Go! Je cours comment? Non pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. Est-ce que vous savez où vous allez? Si vous savez que vous allez au ciel, que vous allez vers le royaume de Dieu, à la vie éternelle, changez pas de direction. La direction, elle est où? Le chemin? C'est qui? Jésus-Christ. La vie, elle est où? C'est Jésus-Christ. Et la vérité, comment faire? C'est qui? C'est Jésus-Christ. On connaît. Restons dedans. Et quand je frappe, je sais où je vais frapper. Là où quoi? Il faut que ça soit brisé. Et qu'est-ce qui va être brisé? C'est cette volonté, ma nature propre, ma chair. Et il faut frapper là où ça a quelque chose, où le péché ronge, même chez les gens. Parfois, on ne veut pas parler du péché, on ne veut pas parler de quelque chose qui risque de le frapper. Mais il faut frapper où? Là où le Seigneur le demande, sur le péché. Et si je ne frappe pas sur le péché et que je frappe en l'air, je fais semblant de me battre là, et que l'adversaire est là en face de moi, et les spectateurs ils vont dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et c'est là qu'il faut frapper. Pour qu'il puisse céder, frappe là où quelque chose doit disparaître, le péché. frappe. Et c'est ça, annoncer l'évangile. On frappe parfois là où ça fait mal aux gens. Le péché. Et si on arrêtait de prêcher et d'arrêter simplement de prêcher qu'il faut se détourner du péché, on va frapper où ? Dans le vent. Dans l'air. Paul est serviteur de Dieu. Et il va démontrer que ce qu'il enseigne aux Corinthiens, c'est l'amour qu'il a pour eux. Lorsque Paul court, il leur montre « Je cours et je sais où je vais ». Lorsque Paul frappe, il dit « Je sais que je vous ai fait frapper là. Je sais que je vous ai frappé sur de la débauche. Je sais que je vous ai frappé sur vos divisions, sur vos rivalités, sur tout ce qui est vrai dans vos vies. Mais je veux vous frapper pourquoi ? Pour que vous vous détourniez de tout ça et que vous alliez où ? Reveniez sur la course. Et ce n'est pas une douleur éternelle, c'est une couronne qu'il y aura derrière. Une fierté d'avoir vaincu ce qui était impossible à vaincre, le péché. Pour savoir où frapper correctement, Paul a dû s'entraîner. Il s'est privé de ses droits, on l'a vu, pour annoncer l'évangile sans faire obstacle. Frapper là où il faut frapper, toujours. Et il s'est dépouillé pour obtenir la vraie récompense lui-même, une couronne incorruptible, des vies qui sont sauvées quand vous avez donné, il y a plus de bonheur à recevoir quoi ? Non, recevoir, c'est pas ça le bonheur, c'est donner. Parce que quand vous donnez, vous voyez des vies qui sont quoi ? Changées. Vous n'avez pas du bonheur de voir des gens qui changent, qui étaient avant dans le péché et qui maintenant, merci Seigneur. Alors que quand vous receviez, c'était pour vous, oui, peut-être vous étiez content de recevoir quelque chose, mais vous la viviez tout seul, votre joie, et en plus, c'est quelque chose souvent d'éphémère. Mais la joie de voir une personne qui se détourne du péché ou qui sort des ténèbres, c'est une joie que vous partagerez jusqu'à quand ? L'éternité. Vous voyez une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui connaît le Seigneur, vous partagerez la joie où avec lui ? Au ciel. Une couronne incorruptible. Vous ne la perdrez pas. Paul se dépouille pour gagner ses frères car il les aime. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour gagner les frères, pour gagner les païens ? Sommes-nous, comme les Corinthiens, plutôt à dépouiller les frères et sœurs ? Vous connaissez, hein ? Ils se dépouillaient entre eux. En les amenant au tribunal, pour que le frère perde ? Ou sommes-nous, comme Paul, de ceux qui se dépouillent pour donner aux autres, pour que les autres gagnent, pour avoir cette couronne incorruptible, celle qui ne se perdra pas ? De voir des hommes et des femmes victorieux en Jésus-Christ, tout comme Paul le fait pour les Corinthiens. Un amour qui donne, un amour qui se dépouille, un amour qui édifie. Verset 27 terminera sur ça. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Notre corps est toujours là pour nous rappeler ses droits. Manger, boire, se reposer. Laisse-moi tranquille. C'est notre corps. Laisse. C'est moi qui commande. Écoutez votre corps. Vous avez jamais entendu ça ? Écoutez votre corps. Là, il dit quoi ? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Qui écoute qui ? Qui écoute qui ? C'est Paul qui écoute son corps ou c'est le corps qui doit écouter Paul ? C'est le corps qui doit écouter Paul. Il doit le tenir assujetti. Pour combattre, il va traiter durement son corps plutôt que de l'écouter. S'il écoutait son corps, ça fait longtemps qu'il serait parti dans sa cabane et qu'il serait resté là et que c'est fini. Parce qu'il a quand même connu plus de malheurs que n'importe qui ici dans cette pièce. Il a failli mourir 3 fois, il a été naufragé, et là il aime ses Corinthiens, mais il y en a qui ne l'aiment pas. Il va là où il n'est même pas bien accueilli, à la base. Et nous sommes prêts à perdre peu de choses, parfois. Et on écoute notre corps. Ah ouais, mais non, mais là c'est fatigant de faire ça. Ah non, mais là j'ai faim, ça, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Ah mais là, non. Qu'est-ce que tu veux, mon corps ? Il prêche cet évangile qui dit que nous sommes plus esclaves de la chair. Il prêche que notre puissance vient de l'Esprit de Dieu. Il prêche de chercher l'intérêt des autres avant le nôtre. S'il faisait autrement, qu'est-ce qui serait ? Désapprouvé après avoir prêché aux autres. il traite durement son corps. Pourquoi ? Pour vivre ce qu'il enseigne. Autant que les sportifs se donnent totalement pour pratiquer leur sport, autant le chrétien doit se donner totalement pour vivre sa foi. Nous devons accepter de perdre des droits, ne pas chercher à satisfaire à tout prix notre corps pour le salut de tous, des juifs ou des non-juifs. Pour ramener ceux qui s'égarent, comme Paul le fait avec les Corinthiens. Si nous appliquons toutes ces choses dans notre vie, notre jugement sera sage, assez sage pour amener un jugement entre les frères, ce qui n'existait pas à Corinth. Personne n'était capable d'amener un jugement. Pas un seul homme sage, il était dit. Pour délibérer sur des cas de tous les jours, le mariage, le célibat, l'esclavage, des cas où on a besoin de conseils. Si on n'est pas prêt à se dépouiller, on va juste dire des choses pour nous faire plaisir à nous. Car en effet, Paul n'est qu'un homme. Il n'est qu'un homme, pas différent de nous. Mais il s'est juste appliqué à vivre ce qu'il a appris de Jésus-Christ, à se dépouiller pour gagner. Lui qui s'est dépouillé lui-même pour nous sauver. Je termine par ce passage. On l'a lu en partie, mais c'est le passage complet. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que c'est à lui que nous voulons ressembler ? Si c'est le cas, rentrons dans la course, combattons et rendons gloire à celui qui nous donne les victoires. Amen. On va prier pour terminer. Oui, mon Dieu, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour pouvoir rentrer dans cette course ? Et se dire que nous allons vers ce royaume, que nous allons vers cette vie éternelle. Nous sommes si peu de choses, mais toi, Seigneur, tu nous as délivrés. Tu nous as sortis des ténèbres. Tu nous as sortis de ces chaises, Seigneur, pour nous mettre sur cette piste, cette route, ce chemin. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Merci, Seigneur, parce que nous sommes en Christ aujourd'hui. Merci parce que nous pouvons avoir cette espérance sûre d'aller au ciel, de vivre dans ton royaume, de te connaître, de pouvoir vivre dans cette joie, dans cet amour, dans tout ce que tu nous promets qui vient de ta personne. Merci Seigneur parce que c'est un privilège, une chose que nous ne pouvions et nous ne méritions pas d'avoir. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. Je ne sais pas où on est chacun, Seigneur, mais tu connais les cœurs. Qu'ils puissent, Seigneur, ne plus observer, regarder, mais qu'ils puissent venir dans la course. Car c'est l'appel que tu nous donnes, vivre en communion avec le Fils, vivre selon le Fils. Merci en tout cas, mon Dieu, parce que cette église est un lieu où on peut encore prêcher ta parole. C'est ton lieu. C'est le lieu où tu te fais connaître aux hommes aussi. Merci parce que c'est ici que je t'ai connu, dans cette salle, et je veux te remercier pour cela. Te remercier parce que ton œuvre, elle est toujours là, que ton œuvre, elle peut perdurer, mais c'est toi, Seigneur, qui tiens l'œuvre. Merci en tout cas pour chaque âme présente. Merci pour l'amour que tu as manifesté chez chacun. Que, Seigneur, nous puissions encore le partager, même après ce culte, afin de te rendre gloire dans tout ce que nous faisons dans notre bouche, mais dans notre manière de vivre aussi, Seigneur. En tout cas, Seigneur, que toute la gloire te revienne au siècle de siècles. Amen. Amen.